Vous allez être avec nous durant cette période du carême, des 40 jours et des 40 nuits. Lorsqu'on parle des 40 jours et des 40 nuits, qu'est-ce que ça évoque à votre esprit?
Bien, pour toute personne qui a lu la Bible, donc le premier souvenir, c'est celui de Moïse qui inaugura la période des 40 jours et 40 nuits, dans la prière, le jeûne. Et puis Élie qui a aussi jeûné pendant 40 jours, 40 nuits, et puis le Christ évidemment. Donc l'Église a retenu, a voulu garder ces symboles, parce qu'évidemment devant Dieu il n'y a que l'éternité, mais pour nous qui vivons dans les temps, donc des périodes, des temps ont une importance particulière, ce sont des temps forts, c'est pour ça que la liturgie appelle le carême le temps fort. Qu'est-ce que ça signifie, un temps fort? Un temps fort dans notre relation avec Dieu, dans la purification de nous-mêmes, dans la sainteté. Donc, le carême doit être un temps accéléré dans notre chemin vers le Sinaï, le mot de la rencontre avec Dieu.
Père Quintal à la Messa, 40 jours, ça n'aurait pas suffi? Pourquoi 40 nuits?
Parce que la nuit n'est pas moins importante que le jour. En effet, c'est plutôt la nuit, le temps de la prière. Vous vous rappelez Peggy, un auteur qui a un poème sur la nuit. C'est la nuit qui est continuelle, ce sont les jours qui coupent, qui interrompent la nuit. La nuit, c'est le temps dans lequel tout repose, dans lequel on se refait, l'être se refait. Et le Christ nous a donné l'exemple en dédiant la nuit souvent à la prière. Pourquoi précisément la nuit? Parce que la nuit, c'est le temps du silence, des bruits humains. C'est le temps donc dans lequel il y a des ténèbres aux alentours, pour ce qu'il y ait une lumière au-dedans. Donc la nuit, c'est très très important.
Dans ces 40 jours et 40 nuits, il y a ce combat de la lumière.
Oui, et la succession du jour et de la nuit, c'est vraiment un symbole de cette situation dans laquelle nous sommes, des combats entre les ténèbres et la lumière. Ce symbole remplit la Bible, donc il faut choisir entre la lumière et les ténèbres. Et le carême s'inaugure dans la liturgie précisément en évoquant la situation du combat, le Christ qui est tenté dans les déserts, qui lutte, qui remporte la victoire, non seulement pour lui, mais aussi pour nous, et qui nous donne l'exemple de cette lutte. Il y a un hymne dans la liturgie, le Veni Creator, dans lequel on prie l'Esprit Saint de repousser plus loin l'ennemi et de nous donner la paix. C'est un souvenir de ce que le Christ a fait. Il a lutté, il a vaincu, il a joui de cette paix paradisiaque qui est le prix de la victoire.
La nuit est importante. Pour les gens qui sont sous un couvre-feu, qu'est-ce que ça représente la nuit?
Et je pense que là, ce n'est pas un signe positif, c'est quelque chose qui évoque la crainte, la terreur. Évidemment, comme tout symbole humain est ambigu, la nuit. La nuit est aussi le temps du péché. Et Saint Augustin disait qu'on vigile, on veille pour le Seigneur, donc en priant, en chantant pour le Seigneur, mais on veille aussi celui qui enlève, ou bien celui qui se donne au vice aussi, et exploite, emploie la nuit, mais ce n'est pas un bon emploi de la nuit. Donc la nuit, c'est un signe ambigu, peut-être aussi un temps de terreur, de peur. Et donc, nous qui n'avons pas, ne sommes pas dans cette épreuve, nous devons, dans notre veille, dans notre prière, nous souvenir de ceux qui veillent dans la terreur, dans la peur, dans la souffrance.
Les tentations du Christ au désert, de quelle façon vous pouvez nous aider à les comprendre dans le monde moderne aujourd'hui, nous aussi qui sommes tentés?
Oui, disait un auteur Dostoïevski que si tous les savants du monde s'étaient mis ensemble pour faire une synthèse des problèmes de tentation des luttes humaines et en essayant de les réduire en trois points, ils n'auraient jamais pu rejoindre l'efficacité, la force, la concentration de ces trois tentations du Christ, dans laquelle il y a toute l'histoire du monde. Donc pour nous aujourd'hui, par exemple, cette tentation d'échanger les pierres en pain, ça pouvait avoir des applications modernes assez fortes. Alors celle-là, c'est la tentation de se procurer les choses de la vie, ce qu'on veut, non de d'une manière naturelle, en travaillant, mais de manière magique, de manière miraculeuse, en forçant, en faisant violence. N'est-ce pas ce qui arrive, par exemple, dans la clonation du monde, en voulant engendrer la vie, non dans les moyens naturels, là, mais par des moyens artificiels, par la technique. Et puis, il y a aussi cette application qu'on pourrait faire. Le Christ pouvait, par son pouvoir, changer les pierres en pain. Il a multiplié les pains, donc il pouvait changer. Il ne l'a pas fait. Alors ça nous enseigne que on n'est pas autorisé à faire tout ce qu'on peut faire, donc tout ce que techniquement on peut réaliser. N'est-ce pas une leçon pour la technique moderne, la science moderne, qui pense que tout ce qu'on est capable de faire, c'est légitime de le faire? Alors là, c'est la grande tentation de la science moderne, d'ignorer les lois naturelles et de penser que tout ce que techniquement on peut réaliser, la science est autorisée à le faire.
Et la parole du Christ, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, est éloquente à ce moment-ci.
Oui. Oui, nous vivons dans un temps de matérialisme évident, surtout dans nos sociétés occidentales. Et donc, vraiment, nous courons les dangers, nous sommes dans la tentation permanente de vivre de pain seulement. Évidemment, non pas seulement du pain, nous voulons beaucoup d'autres choses, mais pour dire des choses matérielles. Alors, c'est un rappel, surtout pendant les temps de carême, que l'âme aussi a faim. Pas seulement le corps, l'âme a faim, il faut lui donner à manger. Notre pensée, notre esprit a soif, soif de lumière, soif. Et alors, il faut aussi écouter la voix de l'esprit et de l'âme, pas seulement les exigences de la chair.
Père Cantalamessa, lorsque nous avons faim physiquement, nous le sentons, notre estomac bouge, notre corps, mais quand l'âme a faim, quels sont les symptômes, les signes qui crie sa faim et sa soif?
Mais on dit, je ne l'ai pas expérimenté, on dit que on ressent la souffrance de la faim surtout les premiers jours. Depuis, lorsqu'on a jeûné pendant plusieurs jours, on ne ressent plus le stimule de la faim. Alors ça pourrait être un signe. Évidemment, au commencement, lorsqu'on commence à négliger la parole de Dieu, on a des rappels forts qu'il faudrait changer, qu'il faut revenir.